Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en latin en 1511, Éloge de la folie est une déclamation satirique de l'humaniste Érasme, conçue durant un voyage vers l'Angleterre et dédiée à Thomas More. Le livre donne la parole à la folie, figure allégorique qui entreprend de célébrer ses propres bienfaits. Ce dispositif paradoxal permet à son auteur de faire rire tout en examinant les prétentions des savants, des puissants, des courtisans et des autorités religieuses. Derrière la légèreté apparente du discours se déploie une critique exigeante des faux savoirs, de la vanité sociale, de la superstition et des abus commis au nom de la foi. Nourri de références antiques et bibliques, le texte relève autant de la virtuosité rhétorique que de la réflexion morale. Sa progression mène de la louange facétieuse des plaisirs et des illusions ordinaires vers une interrogation plus grave sur la sagesse chrétienne. Érasme ne prêche pas le rejet de la raison, mais oppose la simplicité évangélique aux dogmes, aux intérêts et aux prétentions qui la déforment. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la folie personnifiée comme masque de la vérité satirique, le choix de faire parler la folie est le ressort central du livre. Plutôt que de dénoncer directement les comportements de son temps, Érasme confie le discours à une narratrice dont la parole est, en principe, peu fiable. Cette position lui donne pourtant une liberté remarquable. En vantant avec assurance son influence sur la naissance, le plaisir, le mariage, la sociabilité ou le pouvoir. La folie révèle que les êtres humains dépendent largement de désirs, de flatteries et de représentations avantageuses. Le paradoxe est méthodique, ce qui paraît être une apologie de la déraison, devient un examen des illusions qui soutiennent la vie collective. La folie ne vise donc pas seulement les individus manifestement ridicules. Elle montre aussi que des pratiques jugées respectables reposent souvent sur le désir de paraître, de dominer ou de se croire supérieur. Cette voie permet à Érasme de manier simultanément le comique et la critique. Le lecteur est invité à rire des autres, puis à reconnaître sa propre participation au mécanisme observé. Le masque protège aussi partiellement l'auteur dans un contexte où la critique des institutions pouvait être risquée. Mais il ne réduit pas la portée du propos, l'ambiguïté oblige au contraire le lecteur à distinguer une gaieté humaine, parfois nécessaire, de forme de folie plus destructrice, liée à la vanité, au fanatisme ou à la violence. Deuxièmement, une satire des professions savantes et de la fausse érudition, Érasme réserve une place importante aux grammairiens. Rhéteurs, juristes, médecins, philosophes et théologiens. Il ne condamne pas le savoir en lui-même humaniste attentif aux langues, aux textes anciens et à la formation intellectuelle, il défend toute sa vie les bonnes lettres. Sa cible est plutôt la transformation du savoir en spectacle de supériorité. Les pédants accumulent les subtilités, s'enferment dans des querelles de mots et recherchent la reconnaissance de leur père plus que la vérité ou l'utilité commune. Leur érudition devient ainsi une forme de folie, car elle les éloigne du jugement concret et de la modestie. La critique est particulièrement forte lorsque les débats savants prétendent régler des questions spirituelles sans nourrir une vie morale plus juste. Érasme met à nu la tentation de substituer la technicité à la compréhension et la réputation à la sagesse. La satire conserve une portée durable, elle interroge toute culture intellectuelle qui confond complexité verbale et profondeur de pensée. Toutefois, le texte ne propose pas un anti-intellectualisme. Les nombreuses allusions classiques et bibliques manifestent précisément la culture de son auteur. Leur fonction est double, elle rend hommage à la tradition humaniste et démontre, par contraste, que les connaissances doivent rester au service du discernement. Une lecture annotée aide à suivre ce réseau dense de références sans perdre de vue la vigueur comique du discours. Troisièmement, le pouvoir. La guerre et la vanité des hiérarchies sociales, la folie examine les groupes qui occupent les positions les plus visibles dans la société noble, prince, courtisans et responsables politiques. Érasme y décrit moins une théorie institutionnelle qu'une critique morale du pouvoir. Ceux qui dirigent peuvent se croire sages parce qu'ils sont entourés de cérémonies, de titres et de flatteries. Or, ces signes de grandeur masquent fréquemment une attention exclusive à leur intérêt particulier. La cour apparaît comme un milieu où chacun dépend du regard des autres, cultive la faveur et consent à l'hypocrisie afin de conserver sa place. La satire vise aussi la guerre, que le texte associe à une démesure contraire au bien commun et à la paix chrétienne. La critique est importante chez Érasme, pour qui les souverains devraient assumer une responsabilité envers leur peuple plutôt que poursuivre la gloire ou la conquête. Le procédé comique évite une simple leçon politique en faisant admirer à la folie les privilèges et les illusions des puissants. Il expose le caractère fragile de leur prétendue grandeur. Cette analyse ne sanctifie pas pour autant le peuple ni une catégorie sociale particulière. Elle montre que la vanité traverse l'ensemble du corps social, mais qu'elle devient plus lourde de conséquences lorsqu'elle s'exerce avec autorité. Le livre demande ainsi de mesurer le pouvoir à ses effets réels, non à la splendeur de ses apparences. Quatrièmement, la critique religieuse et le retour à la simplicité évangélique, la partie la plus audacieuse de l'éloge de la folie concerne les pratiques religieuses et leurs représentants. Erasme s'attaque aux superstitions, aux dévotions réduites à des gestes intéressés, aux querelles théologiques stériles et aux comportements de clercs qui contredisent le message qu'ils enseignent. Moines, évêques, théologiens et papes ne sont pas épargnés lorsque la richesse, le prestige, la recherche de pouvoir ou la violence prennent le pas sur la charité. Cette critique ne doit cependant pas être comprise comme un refus du christianisme. Erasme demeure attaché à une réforme intérieure de l'Église et à une foi nourrie par les évangiles. La fin du texte modifie donc le registre de la satire. À travers les références à saint Paul, la folie chrétienne prend un sens distinct de la sottise mondaine, elle désigne l'humilité. Le détachement des ambitions et la confiance dans une vérité qui dépasse les calculs de la suffisance humaine. Cette inflexion explique l'unité profonde du livre. Après avoir montré que les hommes se donnent souvent des airs de sagesse pour servir leur passion, Erasme oppose à cette prétention une sagesse qui accepte ses limites. Il ne remplace pas un dogmatisme par un autre. Il rappelle que la foi perd son sens lorsqu'elle devient un instrument de domination, de peur ou de distinction sociale. En dernier lieu, une rhétorique du paradoxe entre rire, érudition et examen de soi, éloge de la folie se distingue par une forme qui fait de la rhétorique un moyen de penser. La folie prononce une déclamation, genre fondée sur l'art de défendre une cause, même paradoxale. Son plaidoyer se construit par amplification, liste, retournement et référence à des autorités antiques ou scripturaires. Erasme exploite cette tradition pour faire sentir le pouvoir trompeur des discours bien construits. La narratrice peut sembler persuasive alors même que ses affirmations révèlent des conduites absurdes. Le lecteur ne peut donc pas demeurer passif, il doit apprécier le jeu des arguments, identifier les contradictions et décider où se situe le jugement de l'auteur. Le rire a ici une fonction critique. Il désarme les certitudes, rend visibles les habitudes devenues invisibles et prépare une forme de lucidité morale. Cette stratégie explique que le texte passe de la fantaisie à une gravité plus nette sans cesser entièrement de jouer. Elle explique aussi certaines difficultés de lecture. Les jeux de langue, les allusions mythologiques, les adages et les débats théologiques supposent un contexte culturel qui peut échapper aux lecteurs contemporains. Une traduction accompagnée de notes rend ces obstacles plus accessibles. En échange, elle permet de saisir une œuvre où la forme et le fond sont indissociables. Erasme critique la fausse sagesse, non depuis une position solennelle, mais en montrant comment le langage peut à la fois séduire, dissimuler et éclairer. En conclusion, Éloge de la folie convient aux lecteurs de classiques, aux étudiants en littérature et histoire des idées, ainsi qu'à toute personne intéressée par la satire politique, sociale et religieuse. Il sera particulièrement fécond pour qui souhaite comprendre le climat intellectuel de la Renaissance avant les grandes ruptures de la Réforme, sans réduire Erasme à une simple opposition entre croyance et incroyance. Le livre offre un bénéfice intellectuel précis, il apprend à examiner les discours qui se présentent comme raisonnables, savants ou vertueux, en demandant quels intérêts, quelle vanité ou quelle peur ils peuvent recouvrir. Sa lecture développe également une attention aux procédés rhétoriques, puisque le paradoxe ne sert pas seulement à divertir, mais à déplacer le jugement du lecteur. Comparé à d'autres satires morales, le texte se distingue par son équilibre instable entre comédie, érudition humaniste et méditation chrétienne. Il ne se limite ni à une dénonciation des abus de son siècle, ni à une célébration vague de la liberté de penser. La folie y constitue une voie ambiguë, capable de défendre les joies ordinaires de la vie tout en exposant les dérèglements de la prétendue sagesse. Cette complexité donne à l'œuvre sa persistance. Certaines références demandent des notes et de la patience. Mais elles ne détruisent pas sa force derrière les institutions et les figures du XVIe siècle, Erasme met en cause le désir universel de paraître plus lucide, plus savant ou plus moral que les autres. Le texte reste ainsi un exercice de lucidité critique plutôt qu'un simple monument historique. Si vous souhaitez soutenir Erasme, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.